Spectre.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30, vous êtes sur l'arpentaire du Zoom Écologie, le nec le plus ultra de la boboitude parisienne. Ce soir avec Vix et Elisa à la régie, nous sommes en compagnie donc de Céleste et Mégane, donc du collectif mobilisation parisien de jeunes étudiantes et jeunes actifs Kanak, qui font partie de l'intercollectif Collectif Solidarité Kanaki, et nous sommes également en compagnie de Martino Micheli, doctorant en anthropologie. Alors, vous vous en doutez, ce soir, avec nos invités, nous allons donc parler des révoltes Kanak contre le dégel électoral, et plus généralement donc de tout ce qui est décolonisation française sur le territoire. Je te laisse Vix, si tu veux.
Ouais, bah une première question pour nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que vous pouvez, chacun à votre tour, un petit peu parler voilà, de ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie Kanaki suite au dégel du corps électoral et peut-être remettre en contexte. Je vous laisse vous répondre et vous compléter tous les trois. J'imagine que vous aurez des choses à dire. Martino, tu veux y aller en premier ?
Ok, ben, bonjour à toutes et à tous.
Ah Martino, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort ?
Ok, vous m'entendez là ? Oui.
Ouais, parfait.
Ok, ben, je disais bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Et déjà, on est en train d'assister en Kanaki-Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai à une série de, ben, en vrai, une révolte de la population du pays. La population Kanak en grande partie, mais pas que ça. En vrai, il y a plusieurs groupes qui font partie de la société Kanak ou calédonienne et parmi tous ces groupes, soit Kanak que non Kanak, il y a plusieurs jeunes et pas jeunes qui sont dans la rue à protester contre la réforme constitutionnelle de Macron. Peut-être après, on ira plus dans les spécifiques de la réforme. Là, même parce que c'est en crise, hein, après les dernières élections européennes, du coup, peut-être on parlera de ça aussi. Ce que je trouve c'est intéressant à dire pour commencer, je ne sais pas si Céleste, qu'est-ce qu'elle pense Céleste et Mégane, c'est que ces réformes qui prévoient ou prévoyaient de dégeler les corps électoraux spéciaux appelés à voter pour les élections provinciales des Kanaki-Nouvelle-Calédonie va agresser directement ce que pour moi c'est le plus important peut-être, l'idée même d'une citoyenneté calédonienne. Il faut d'abord situer les pays et les contextes. On est dans les Pacifiques, dans les 10 Outre-mer, mais dans une ancienne colonie de peuplement. C'est-à-dire que depuis la fin du 19e siècle, l'État français a organisé un déplacement des populations d'origine européenne et en provenance des autres colonies autour de la Calédonie pour justement créer une colonie de peuplement en Océanie. Une colonie de peuplement qui aura permis à l'État français d'avoir sa place dans les Pacifiques. Et cette condition de colonie de peuplement de la Nouvelle-Calédonie a été remise en question au cours du 1900, surtout dans les années 80, par une revendication de la population autochtone kanak, réunie dans les Fronts de Libération Kanak Socialiste, qui a été créé dans les 1984, justement pour réacquérir la souveraineté sur les pays. Cette révolte, à l'époque, avait après produit une série de négociations entre l'État français, la droite soutenue par la majorité des descendants des colons français, et l'FLNKS, du coup les Fronts de Libération Kanak, les socialistes. qui avait après conduit l'archipel à traverser depuis 1988 avec les accords des Matignon-Oudinot en période de décolonisation négociée. Ça veut dire que la Calédonie, la Kanaky-Calédonie, selon cet accord, mais surtout selon l'accord signé après 10 ans à Nouméa, toujours entre l'État, la droite et l'FLNKS, l'idée c'était vraiment d'accompagner les pays dans sa décolonisation. Un des principes qui était en fait inscrit dans les textes de l'accord de Nouméa, c'était la naissance d'une citoyenneté calédonienne. Et ça, c'est un point très important parce qu'il touche directement la question du dégel et du corps électoral. Là, ces principes-là, en fait, prévoyaient la reconnaissance d'une citoyenneté spécifique à la Nouvelle-Calédonie, reflet d'une communauté de destin entre les différentes communautés. Du coup, c'était ouvert aussi aux descendants des colons et des autres groupes amenés par l'administration coloniale en Calédonie. Et à la base de cette notion de citoyenneté, il y avait justement des restrictions imposées au corps électoral. Donc on peut entendre, à mon avis, tous ces mouvements, toute cette remise en question de limitation au corps électoral par les gouvernements, par la présidence Macron, comme en fait une remise en question du principe de décolonisation même et de l'existence du coup d'une citoyenneté calédonienne. Du coup, je pense que ça pourrait être un bon point pour partir dans notre réflexion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez là.
On peut carrément en parler. Peut-être Megan ou Céleste parler plus directement des événements et de comment est la situation actuellement en Kanaky. Pour les auditeurs et les auditrices, afin vraiment de bien poser l'actualité et que tout le monde nous comprenne. Et puis après, on pourra reparler de ce que Martino a dit autour de la citoyenneté kanak.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. En premier lieu, je voudrais vous remercier de pouvoir nous consacrer aujourd'hui la possibilité d'exprimer une parole kanak sur votre radio Fréquence Paris Pluriel. C'est important pour nous et nous, dans notre culture, quand on prend la parole, on remercie toujours les personnes qui nous permettent de prendre la parole. Donc voilà, merci à vous. Et puis ensuite, pour aller dans le vif du sujet, effectivement, donc les 13 et les 14 mai, il y a eu un mouvement en fait de contestation qui a eu lieu en Calédonie contre la volonté de l'État français au travers du président Macron de vouloir faire passer le texte contre le dégel du corps électoral en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Ce texte, un peu, nous, en tant que Kanak, on s'y oppose ouvertement parce que on le conçoit comme une poursuite de la colonisation française en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Cette volonté, en fait, de vouloir venir noyer le peuple kanak en continuant un peu de permettre à des communautés qui sont récemment arrivées en Nouvelle-Calédonie de pouvoir voter aux institutions, de pouvoir participer au vote des institutions locales qui décident un peu de toutes les politiques publiques que l'on applique en terre kanaky-Nouvelle-Calédonie et qui prend en compte toutes les problématiques intrinsèques qu'on a sur notre pays. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est de se dire aussi que être noyé avec un corps électoral qui viendrait renflouer ce pourquoi nous on se bat depuis longtemps, c'est aussi nous invisibiliser sur notre propre terre et dans notre propre pays. Et nous, dans la culture kanak, on se bat pas que pour l'instant présent, on se bat pour que demain nos enfants, les générations futures, on puisse toujours reconnaître la Kanaky-Nouvelle-Calédonie comme une nation parmi le concert des nations et des civilisations sur cette terre.
Bonsoir à toutes et à tous. Dans la continuité de ce que Céleste disait, je tiens aussi à vous remercier de nous donner cet espace de parole. Donc, je vous remercie et c'est important pour nous de pouvoir améliorer notre visibilité parce qu'on n'a pas énormément d'espace de parole, donc c'est très important. Je vais, dans la continuité de ce que Céleste disait, ce projet de loi constitutionnelle s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que l'ancien Premier ministre Pierre Messmer en 72 disait à son secrétaire d'État, c'est qu'il y a toujours une volonté de peuplement, en fait, de cette volonté de vouloir noyer la population kanak sur ses propres terres. Et aujourd'hui, si la jeunesse kanak se révolte, on n'accepte pas le terme d'émeute, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'émeute. Vous avez pu le voir dans les médias que le terme est complètement erroné. On veut faire croire à de la délinquance, à des jeunes non conscientisés. Moi, je peux vous dire que ce sont des jeunes qui ont conscience de ce qui se passe. Ils ont conscience que ce texte aura un impact très important pour leur avenir en Nouvelle-Calédonie. Donc on ne veut plus de cette volonté de l'État français de coloniser sans cesse la Nouvelle-Calédonie. C'est important de se battre sur le terrain parce que finalement, plusieurs délégations du FLNKS, est venue en France, à Paris, pour faire comprendre à Macron que cette situation était très critique, que ça allait éclater. Il n'a pas voulu nous écouter. Quand je dis nous, ce sont nos élus indépendantistes. Donc finalement, vous avez bien vu comment la situation s'est terminée. Il y a eu plusieurs morts. Aujourd'hui, on parle de 9 morts pour nos jeunes militants sur le terrain. Vous savez, en ce moment, ils n'ont pas accès forcément à beaucoup de nourriture. Et c'est très difficile en ce moment d'être dans les barrages. Et, ben, ils sont sans cesse, ils peuvent perdre la vie à tout moment.
Donc, en fait, c'est 9 morts officiels.
Oui. Mais j'allais continuer pour dire que c'est un nombre qui est affirmé par le haut commissaire. Mais il y a beaucoup plus de morts. T'en ne parles pas.
De morts potentiellement, ou plus. C'est quoi, pour donner un ordre de grandeur?
Moi, je dirais plutôt une cinquantaine de morts. Mais on n'a pas, je veux dire, tout est censuré en fait en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes au courant, il y a eu l'état d'urgence qui a été levé dernièrement, mais
TikTok était censuré.
Tout à fait, oui. TikTok a été censuré, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de liberté publique en Nouvelle-Calédonie. Et les jeunes utilisent beaucoup la plateforme TikTok pour communiquer. Donc on a eu du mal à récolter des photos, des vidéos, des éléments de preuve. Donc, voilà.
Mais justement, en fait, ce que vous dites aussi sur la médiatisation de la lutte, c'est j'ai l'impression que, par exemple, en fait, on a l'impression en France, en métropole, de découvrir là ce qui se passe en Kanaky, que depuis très récemment, mais en fait c'est depuis novembre 2023 où la CCAT a déjà organisé des manifestations pacifiques massives où il y avait énormément de manifestantes, je sais plus, 60 000 selon certains chiffres, c'était énorme. Et donc justement, donc avec cette réforme du jeu électoral qui prévoit justement d'ouvrir le corps électoral et donc de rompre avec cette promesse d'indépendance en Kanaky, concrètement avec la dissolution de l'Assemblée nationale et donc les élections législatives qui arrivent, où est-ce qu'on en est, vu que c'est mis en suspens, la réforme est mise en suspens? Est-ce que vous pensez qu'en Kanaky, il va y avoir une augmentation des violences de la part des milices blanches, notamment loyalistes?
Oui, alors pour revenir un peu sur effectivement le statut de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, donc les accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa sont des accords qu'on rappelle de décolonisation. Donc en fait, nous, quand le président Macron vient s'opposer et fait un passage en force en nous disant on va faire passer le texte sur le dégel du corps électoral, nous, on le vit mal parce que nous, on s'inscrit toujours dans cette volonté et cette démarche politique de décolonisation reconnue par l'ONU d'ailleurs. Politiquement, si on devrait se référencer à la dissolution de l'Assemblée nationale, nous, on reste sur nos gardes parce qu'on a vu comment la politique de Macron en France peut être forte, qui peut aussi être hyper violent. On a fait partie aussi de cette jeunesse qui a manifesté dans les rues de Paris contre la réforme de retraite, contre la violence policière. Et pourtant, on n'a pas été entendu. On a fait face à cette même autorité étatique coloniale de la part du président Macron en Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et donc nos jeunes, ils en ont payé le prix fort parce que aujourd'hui on compte, comme disait Megan, une cinquantaine de jeunes qui ont été des victimes de la répression coloniale française. Aujourd'hui, on les reconnaît pas. Le représentant de l'ordre colonial en Calédonie, au travers, enfin c'est ce que Megan a appelé tout à l'heure le haut commissaire, il reconnaît aucun de nos jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas parce que on l'a déjà connu dans les années durant la guerre civile de 84 à 88 en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, on aime revisiter un peu son appellation comme les événements. Entre guillemets, parce que vous savez très bien que sur territoire français, on peut pas, un président, enfin l'État français ne peut pas reconnaître qu'il y a eu une guerre civile sur son propre territoire. Donc moi, je dis toujours de manière un peu ironique que c'est plus facile de dire les événements en terre australe, exotique. Donc voilà, ça passe mieux dans la communication politique de revisiter, de restituer ces événements-là dans ce contexte-là, politique de l'époque. Pour revenir un peu à la dissolution de l'Assemblée nationale, comme je vous y disais, nous, on reste sur nos gardes parce qu'aujourd'hui, lui, il a suspendu la démarche législative du texte. Mais rien ne nous dit demain ou rien ne nous garantit demain que l'ADN, l'Assemblée nationale, l'AN constituée, il reviendrait pas à refaire passer le texte par les deux chambres et puis ensuite aller même jusqu'au Congrès de Versailles. Donc nous aujourd'hui, donc les législatifs là qui sont actuellement organisés en Calédonie, nous on fait partie quand même de ce collectif qui dit les jeunes, il faut qu'on aille voter. Il faut qu'on aille voter parce que bien qu'on soit toujours en situation coloniale, on ne peut pas continuer à permettre que des députés loyalistes, on les appelle les loyalistes parce qu'ils sont loyaux à la République. C'est pour ça que c'est cette raison-là que la nomination de loyalistes vient de ça, de la loyauté à la France en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on pousse, on sensibilise nos jeunes, et notamment la communauté, la diaspora kanak, calédonienne, océanienne, qui du pays en France, de pouvoir faire les procurations en masse. Parce qu'on mérite mieux que les députés loyalistes qu'on a aujourd'hui. Quand on a vu le débat et le débâcle que ça a été à l'AN de nous invisibiliser, de nous destituer un peu en tant que identité kanak, c'est quelque chose que nous, cette jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas prêt à se voir déchoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, même si les découpages des deux circonscriptions en Calédonie nous sont défavorables à cause de la loi PASCA, aujourd'hui on mérite mieux qu'un Nicolas Metzdorf pour nous représenter à l'Assemblée nationale française. Donc voilà.
Super. On a le contexte, voilà, les actualités très récentes. Peut-être Martino, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les années 80 et ce que tu disais, la période des événements, comme on l'appelle depuis la France hexagonale, mais qui était une situation de guerre civile, hein, en fait. Parce qu'on a l'impression, avec là le nombre de morts et de jeunes Kanaks en particulier, que ça peut rappeler cette période... qui était une période, voilà, de durcissement colonial et qu'on reviendrait à une période aujourd'hui là sous Macron, une phase de recolonisation, de durcissement colonial et qui fait écho, voilà, à ces années 80.
En fait, avant, je voulais juste dire une chose parce que justement, Céleste et Megan, elles parlaient du numéro des morts. Du coup, là, je demandais aussi du risque des violences, non? Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire surarmé. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'armes à feu énorme par rapport à la taille de l'archipel et à la population. On a les hauts commissariats avaient estimé au numéro de presque 100 000 armes à feu pour 270 000 habitants. C'est un problème énorme. Il y a eu une libéralisation de la vente d'armes qui était un peu voulue par les fronts, on va dire, loyalistes, quoi. Les partis, une partie des partis qui se disent loyalistes. Et c'est à l'origine du numéro des morts et de la violence des séjours, à travers notamment la constitution des milices, non, de ce que vous rappelez. Et cette question des milices, en fait, est assez ancienne. Parce que déjà dans les soi-disant événements dont tu m'as demandé, il y avait eu ce phénomène des milices, du coup des groupes armés, en théorie des citoyens, qui s'organisaient pour... Eux, ils disent, et ils disaient, défendre leur maison, mais en fait, il y a une vraie chasse aux gens qui manifestent et protestent. Et les morts sont très jeunes, la plupart c'est des Kanaks et des Océaniens. Et il y a eu surtout, je voulais juste les souvenir, hein, parce que c'est des choses assez graves, hein, et il y a eu une fille qui était une mineure, Nazaye Duka, qui était tuée justement à Nouméa. Et la question, du coup, c'est explosif, pas que à cause des la révolte en cours contre les dégels de la jeunesse kanak-océanienne, mais justement de cette violence organisée de la droite coloniale. Et ça, c'est un problème énorme. Là, tu me demandais des soi-disant événements. Il y a justement un philosophe et anthropologue aussi qui habite en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, qui est Hamid Mokadem, qui parle pour les événements, entre guillemets, de séquences révolutionnaires kanak. C'est une période qui va de 1984 au 1988 avec différents aussi dramas, tueries, violences, mais qui a vu à la base, pour ceux qui ne connaissent pas assez l'histoire du pays, une révolte, une revendication très forte et unitaire du peuple kanak pour la restitution de cette souveraineté confisquée par la France avec la prise des possessions, qui était du 1853. Et c'est en fait qu'aujourd'hui, si on veut sur les propositions, oui, peut-être, parce qu'il y a toujours la question justement du corps électoral et de l'ouverture au moins, et dans quelle forme aux autres groupes qui habitent les pays. Mais en fait, c'est quand même assez différent parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, la majorité des violences sont concentrées dans la ville de Nouméa et dans les communes de l'agglomération urbaine de Nouméa, comme Dambéa et à côté Païta, un peu plus au nord de cette Dambéa. Et ainsi que dans certaines communes de la Brousse, comme on appelle les zones rurales en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il y a eu souvent des tentatives des comités locaux de la CCT d'ouvrir un dialogue avec les non-indépendantistes ou quand même les européennes qui ne partagent pas l'idéal indépendantiste, et trouver en fait et essayer quand même de on va dire garder un ordre local. Du coup, en fait, on voit comme la CCT dans beaucoup de contextes a essayé par contre de gérer la situation et même d'ouvrir un dialogue. Et donc il y a cette différence entre ce qui se passe à Nouméa et hors de Nouméa que je pense est plus fort que pendant les événements, hein, ou c'est quand c'est révolutionnaire kanak ou révolte kanak, qui avait vu par contre aussi une nomadisation de l'armée dans les zones à majorité kanak qui avaient produit beaucoup de violences. Ce qui est intéressant aujourd'hui, à mon avis, et que peut-être ce n'était pas le cas dans les années 80, c'est que la jeunesse qui proteste contre les dégels et qui est là à Nouméa, dans les rues de Nouméa, protester, et pas que de Nouméa, c'est que c'est une jeunesse kanak et en général océanienne. On l'a très bien vu en France, dans les manifestations en France. Il n'y a pas que des kanaks, il y a justement toujours plus de jeunes des autres communautés qui participent à la lutte du peuple kanak. Et ça, c'est peut-être le vrai danger pour la droite. Ça veut dire qu'il y a un glissement, toujours un peu plus, des jeunes des autres communautés qui vont vers la cause kanak. Et ça change énormément les contextes politiques. Et du coup, aussi, la vision qui est proposée d'un peuple kanak ou d'une revendication kanak raciste vers les autres communautés. On a parlé souvent dans ces jours-là d'une question du racisme anti-blanc. Je pense que ça, c'est une définition vraiment dangereuse et qui n'a pas des raisons d'être. Parce qu'en fait, c'est bien avant les soi-disant événements, du coup la guerre civile qui a eu lieu entre les 84 et les 88, que les indépendantistes ont ouvert leur lutte aux autres groupes. Notamment à travers la définition, la création d'une définition qui est en fait reconnue et réaffirmée dans l'accord de Nouméa des victimes de l'histoire. Ça veut dire que le peuple kanak ouvre à tous ces gens qui n'ont pas eu de choix, la choix de naître, de grandir en Calédonie après la période coloniale, de participer à la construction d'une nation souveraine dans les océaniennes. Et là, je pense que c'est un point fondamental, parce que vraiment, il faut rejeter une association qui est faite entre cette révolte et la période des événements qui pousse beaucoup sur l'ethnicisation des pôles. Un pôle indépendantiste et un pôle loyaliste qui quelle façon représente un peu deux visions ethniques du contexte politique. En vrai, il n'y a pas que ça. Et c'est très important de les dire.
Mais tout
il
à fait. Mais justement, Martino, justement, à ce sujet-là, justement, tout à l'heure, Céleste et Mégane évoquaient donc le choix aussi des mots dans le discours médiatique, et le choix de parler d'émeute et non pas de parler de révolte. Et donc justement donc ce discours politico-médiatique il y a de fait du coup en choisissant de parler d'émeutes, il y a un rapprochement avec ce qui se passe sur le territoire métropolitain en banlieue du coup et donc du coup ce discours sur la jeunesse Céleste et Mégane donc une jeunesse qui serait du coup présentée comme dangereuse, décadente comment est-ce que quelle est la marge de manœuvre par rapport à ce discours médiatique que vous pouvez avoir pour essayer justement de contre-attaquer, de déconstruire.
Oui, mais vous pouvez reformuler.
Oui, c'est un peu vaste la question. En fait, c'est vraiment en fait, j'ai l'impression parce que de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a, par exemple, les militants d'extrême droite en France font vraiment l'analogie entre ce qu'il se passe en Kanaky en ce moment, donc comme un exemple en fait de ce qui va arriver potentiellement, eux, ce qu'ils voient en fait arriver, même désirer arriver sur le territoire français en fait, sur le territoire métropolitain.
J'ai très bien compris. Donc, en fait, on est quasiment tous d'accord pour reconnaître que les territoires ultramarins sont des territoires d'expérimentation. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui se passe. Quand on parle de répression coloniale, ils utilisent des... Je ne peux pas rentrer dans des termes techniques pour vous parler des armes qui circulent ou tout l'artillerie du GIGN ou du RAID. Il y a clairement une répression très forte et ils expérimentent en fait. Donc les militants français ici, que ce soit les militants féministes ou les militants écologistes qui luttent pour la protection de l'environnement, les écologistes, ils ont tout à fait raison de s'inquiéter puisque ça arrivera forcément à un moment donné ici. Vous voyez bien comment la politique de Macron est virulente. Donc il y a des raisons de s'inquiéter.
Pour continuer justement sur la jeunesse, je pense qu'on va passer à notre deuxième partie. On va bientôt lancer un petit jingle de musique. Quelle est la place de, si tu devais un petit peu en parler, la place de la jeunesse, parce qu'on voit qu'elle est omniprésente dans cette lutte kanak, en particulier là, cette année, et elle n'est pas toujours alignée avec les positions du FLNKS, peut-être même qu'elle est plus radicale à certains moments. On la voit beaucoup présente dans la rue et c'est aussi elle, du coup, qui subit le plus la répression. Peut-être que Mégane ou Céleste, vous pouvez parler de la place spécifique qu'a la jeunesse dans cette lutte kanak.
Je vais dire ce que je pense et je passerai la parole à Céleste. Donc on parle de révolte urbaine puisqu'il s'agit des jeunes de quartier. Et pourquoi la ville de Nouméa est aujourd'hui scindée en deux? Tout simplement parce que dans les quartiers sud, vous avez la bourgeoisie européenne qui y vit et dans les quartiers nord, ça éclate parce que c'est là que vous avez la précarité, les squats. On n'a pas de bidonville, enfin on ne les appelle pas comme ça, mais on a des habitations très précaires où vous retrouvez toutes les populations océaniennes, donc pas uniquement kanak, vous avez les Wallisiens, les Tahitiens, d'autres communautés. Et vous avez raison de dire que... Entre les dirigeants politiques et la jeunesse, il n'y a pas forcément un alignement dans le sens où il n'y a pas eu de mot d'ordre donné pour dégrader les espaces publics. Ce sont des entreprises privées, des espaces publics qui ont été attaqués, pas des maisons. Et pourquoi cette révolte, en fait, à travers de la violence? Tout simplement parce que cette jeunesse a subi pendant ces 40 ans de soi-disant paix beaucoup de violence. Et ça a ressurgi de cette manière. Quand vous allez à l'école et que vous êtes discriminé, que vous savez que vous n'avez pas les mêmes chances que vos amis européens ou caldoches à côté de vous, vous partez déjà défaitiste. Et aujourd'hui, cette jeunesse a besoin de crier haut et fort. Son existence, elle a besoin d'exister. Et peut-être que les voies de la légalité ont été épuisées aujourd'hui. Donc les jeunes estiment qu'il faut se battre sur le terrain. Et si Macron ne veut pas écouter nos élus quand ils viennent ici à Paris, eh bien peut-être qu'il faut... La seule solution est de montrer ce qu'on a à dire sur le terrain.
Merci, on va faire une petite pause en chanson du coup. Et après on revient juste après.
Soyez fiers de porter ces couleurs, ce drapeau de mon pays, Tanaki. Soyez fiers de porter ces couleurs, ce drapeau de mon pays, Tanaki. Soyez fiers de porter ces couleurs, ce drapeau de mon pays, Tanaki.
Très bien, on est en direct. Eh ben. Bonjour, bonsoir à toutes chères auditrices. Il est 21h04, vous êtes sur l'Arpentaire du Zoom Écologie. Et ce soir, donc, nous parlons de la Kanaky. Et nous avons comme invités Céleste et Megan, intercollectif Solidarité Kanaky. Voilà. Et nous sommes aussi en présence de Martino Micheli, doctorant en anthropologie, et également en présence de Élise Boll, donc étudiante et membre du collectif Solidarité Kanaky Brest. Est-ce que tu nous entends, Élise?
Oui, merci, je vous entends.
Ok, super. Eh ben, écoute, Élise, on voulait savoir du coup comment ça s'est passé exactement. Le premier rassemblement à Brest, ça a lieu le 1er juin, c'est ça? Comment c'était la mobilisation sur place?
Alors le 1er juin, tout d'abord pardon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Le 1er juin, nous avons organisé un rassemblement avec différentes associations qui nous ont permis de nous faire entendre et d'appeler à la mobilisation. Et la manifestation du 8 juin, on a regroupé à peu près 250 personnes. Et notre collectif qui regroupe plusieurs communautés avec une grande majorité de Kanaks ont pu être présentes et c'était dans l'ensemble, la plupart, pardon, c'était surtout une population jeune.
Et tout à fait. En fait, on parlait aussi, Élise, je te disais au téléphone tout à l'heure, on parlait dans l'émission de la question de la jeunesse, de la place de la jeunesse dans les mobilisations. Et donc, juste avant, avec Megan et Céleste, on abordait effectivement cette question. Et donc, selon toi, Élise, est-ce que la jeunesse a une place très importante, oui, selon toi, dans la mobilisation?
Oui, bien sûr. Moi, en tant que jeune également, je vais rebondir là-dessus. C'est par rapport à, parce qu'en fait, c'est par rapport à notre avenir. Notre avenir à nous, quand on va rentrer en Nouvelle-Calédonie, nous qui sommes en France, mais aussi eux qui sont à Nouméa, qui pensent aussi à leur avenir, parce qu'on n'a pas les mêmes chances, comme disait Megan, je crois. Elle disait qu'on n'avait pas les mêmes chances, et c'est vrai. On est, quand on va à l'école, les professeurs, ils nous disent, ils vont toujours préférer, ils vont toujours nous stigmatiser, parce qu'on est des Kanaks, on va moins bien réussir, mais tout ça, ça a un fond, je vais dire... il y a quelque chose qui explique ça. Il y a beaucoup d'inégalités sociales. Quand on va parler de taux de chômage, on peut parler aussi le critère clivant, c'est aussi au niveau de diplôme. Par exemple, dans les universités, il y a 8% de Kanaks à l'université de Nouvelle-Calédonie. On retrouve 8% de Kanaks, 54% d'Européens. Par exemple, pour le taux de chômage, sur 14,4% de taux de chômage en Nouvelle-Calédonie, on va retrouver 15% de Kanaks et 8% de non-Kanaks. Et même, on va toujours nous dire, oui, il faut aller en France pour justement avoir des postes haut placés, mais même là, dans les cadres, on est sous-représenté dans les postes à responsabilité. Il y a 3% de Kanaks contre 13% de non-Kanaks. En fait, il y a toujours cet écart persistant entre les Kanaks et les autres communautés avec un même niveau de diplôme. Donc, c'est pour ça que, en fait, on est révolté. La jeunesse, ben, elle peut être révoltée déjà parce qu'on l'écoute pas, mais là, c'est pire encore puisque, avec le dégel électoral, eh ben, la voix de notre peuple, elle est mise en sourdine.
Et tu rappelais donc justement toutes les inégalités sociales et matérielles, donc en termes d'accès à l'université, l'accès à l'emploi, les différences en termes de statut social. Est-ce qu'on n'a pas parlé là, mais par exemple le coût du logement justement pour les jeunes, quel est-il? Est-ce que c'est comment ça se passe exactement?
Excusez-moi, le coût du.
Ouais, par exemple le coût du logement. Est-ce que justement on peut se loger décemment? Est-ce que c'est là, enfin j'imagine que là encore des inégalités avec les inégalités sociales, il y a une forme de ségrégation qui se rejoue là à ce niveau-là.
Oui, et bah du coup on perçoit aussi des aides, ça c'est vrai, mais il y a aussi un argument de la part des autres populations qui nous disent oui mais grâce à la France et ben vous avez des aides, tout ça, tout ça. Sauf qu'il faut savoir qu'en depuis 99, on a un système qui est différent. Donc oui, on perçoit des aides, et heureusement, et parce qu'on paye des impôts et tout. Et c'est dur de se loger en Nouvelle-Calédonie, mais justement, nous, les Kanaks, enfin, quand on, comme disait, je sais plus, Mégane, il disait qu'on habitait dans les quartiers nord, et quand on regarde les quartiers nord, c'est... Avant, il y avait les tours de Saint-Quentin, c'était des grandes tours, c'est un peu une cité. Il y a les tours de Magenta. C'est vraiment pas un environnement. En fait, c'est vraiment, on est parqué dans des quartiers. C'est pas un environnement, on va dire, c'est pas propice à
à pouvoir continuer, à pouvoir vivre décemment
oui,
sur le territoire kanak.
À vivre décemment, oui, c'est ça. Et les conditions, par exemple, moi j'habite à Saint-Quentin. Dans les tours de Saint-Quentin, c'était très sale, de l'urine dans les ascenseurs. Vraiment, c'était du vomi, enfin, c'était horrible, les ascenseurs ne marchaient pas. Et à Lanzvata, par exemple, et ben, ils ont la vue sur la mer. Et c'est pas des grands bâtiments, c'est des bâtiments de 5 étages. C'est vraiment différent. Et Lanzvata, c'est dans les quartiers sud. C'est là où il y a une sous-représentation de la population kanak.
Ok. Ben, on te remercie, Elise. Tu peux rester avec nous en direct. Mais j'allais poser une autre question à Mégane.
Merci.
Ou à Céleste, mais c'était à Céleste, pardon. Pour poursuivre sur les conditions matérielles spécifiquement de la jeunesse et des inégalités qu'on peut voir entre la jeunesse kanak et la jeunesse des descendants des colons, est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux nous parler concrètement des conditions matérielles sur place? Comment est-ce que la jeunesse kanak vit? Dans quelles conditions?
Oui, alors, pour vous rappeler un peu le contexte territorial de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, donc on a tout le grand nord de la Calédonie et les îles, où c'est un milieu qui est plutôt rural. Et ensuite, on a tout le grand Nouméa qui regroupe un peu le chef-lieu, pour pas dire capitale, le chef-lieu qui est Nouméa. Et ensuite, on a toutes les villes attenantes qui forment un peu le grand Nouméa, pour utiliser un vocabulaire un peu urbanistique. Alors, on a ce territoire-là qui est plutôt urbain. Et on a les territoires, comme je vous l'ai dit, consacrés à la province nord et à la province des îles Loyauté. Donc, sur ces territoires qui sont plutôt ruraux, donc, c'est là où on a les plus fortes concentrations de population kanak qui vivent majoritairement dans les tribus et sur des lieux, tribus encore, qui est aussi un terme colonial, hein, au passage, une constitution administrative coloniale. Mais sur des territoires sur lesquels on Moi qui ai grandi en tribu, par exemple, pour vous donner mon expérience, où il y a une sociabilité qui est beaucoup plus importante. Disons qu'on a une manière d'éduquer, on a une manière de vivre la vie sociale en tribu qui est différente de ce qu'on peut avoir dans les aires urbaines et notamment dans le Grand Nouméa. À Nouméa, par contre, c'est les populations kanak et océaniennes sont concentrées dans les quartiers nord, comme elle a répété, comme elle a dit Megan, où ils subissent le chômage, la ségrégation territoriale, la discrimination au logement, la discrimination. Ils vivent avec un apport financier qui est très précaire, où c'est un peu la débrouillardise. Les gens vivent en essayant de s'en sortir. Et comme on le dit un peu entre guillemets chez nous, c'est la galère qui prime et qu'ils essayent de s'en sortir comme ils le peuvent. Et donc nous, nos jeunes, vous savez, depuis 1998, où on a instruit les accords de paix, on a vécu pendant 36 ans sur une stabilité politique qui était aussi grosse stabilité politique et un peu moindre sur la stabilité économique et sociale où elle était un peu plus de façade. Donc en fait, on a des jeunes qui ont fait des grandes études, qui se sont développés intellectuellement, qui ont réussi à s'émanciper individuellement et qui finalement ont un regard assez mitigé sur la situation politique et sociale que la Calédonie elle a pu avoir durant ces 36 ans de paix. Parce qu'en fait, le développement économique de la Calédonie, qui on peut l'associer un peu à un développement d'un Eldorado comme pourrait être la Suisse en Europe. C'était un peu le cas de la Calédonie, notamment avec le boom, le démarrage des grosses usines de nickel en Calédonie où ça renflouait de l'argent économique dans toutes les familles. L'argent coulait à flot. Par contre, ça a été une période qui a été circonscrite parce que, comme dans tout mouvement économique, il y a une période bien déterminée et puis après, la situation politique et économique elle revient un peu à la normale et ça devient compliqué pour tout le monde. Donc pendant ces 36 ans de paix, elle n'a pas été que stable politiquement, elle a été aussi stable économiquement. En revanche, on a, et ça c'est un peu c'est le regret qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une certaine population blanche des quartiers sud de Nouméa, mais pas que, il y a aussi eu un développement d'une certaine partie de la société kanak et océanienne où c'est devenu un peu aussi des dynasties économiques, politiques, où ils ont très bien surfé sur le développement de la Calédonie. En revanche, qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à côté, on a aussi une grande partie de notre population qui a continué à galérer, qui a été un peu les damnés de ce développement économique et qui aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là, issus de ces familles-là qui n'ont pas profité de manière égalitaire du développement de la Calédonie qu'on retrouve sur les barrages. Parce que, comme disait Megan tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont conscientisés, qui clairement conscients. C'est pas, on a tendance à les dénigrer en leur envoyant un peu le statut de délinquant, mais c'est absolument pas ça. C'est des gens qui ont conscience de la réalité dans laquelle on vit. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on dénonce, c'est que on est venu se relever avec la dimension politique du dégel du corps électoral, mais c'est aussi toute la frustration sociale qui a perduré pendant 36 ans et qui aujourd'hui un peu nous pète, pour le dire familièrement, un peu au visage, quoi. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont continué à galérer, à subir les discriminations, à subir les discriminations au logement, à l'emploi. Les jeunes qui rentrent des études, que ce soit en métropole ou dans les grands pays occidentaux, qui rentrent en Calédonie pour servir leur pays et qui se retrouvent finalement à devoir se contenter d'emplois subalternes ou de propositions professionnelles un peu en dessous, voire même beaucoup en dessous de leurs qualifications professionnelles, et ben c'est quelque chose qui nous choque. Et en fait, ce que dit aujourd'hui nos jeunes dans le pays, c'est que donnez-nous les moyens de pouvoir conduire notre pays. Donnez-nous les moyens de nous battre aussi, de dénoncer toutes les injustices qu'on subit. Aujourd'hui, cette population qui est majoritairement dans l'agglomération du Grand Nouméa, donc sur une aire urbaine, elle subit aussi toutes les vulnérabilités socio-économiques qu'on voit aussi, qu'on observe dans toutes les grandes entités urbaines de toutes les grandes mégalopoles du monde. Donc c'est un peu ça, en fait, on n'est pas un extraterrestre un peu qui vient et qui se développe un peu en parallèle de ce qui peut se passer dans le monde. On subit aussi toutes les injustices qui se passent dans le monde. Et en fait, donc on a un pouvoir économique qui se développe en Calédonie, qui n'est pas très égalitaire, qui met les gens de côté, sur le bord de la route. Et aujourd'hui, nos jeunes, ce qu'ils disent, c'est que, OK, il y a eu le dégel du corps électoral qui veut nous invisibiliser, mais ce qu'on veut aussi vous dire, c'est que vos 40 ans de stabilité, aujourd'hui, ça a été un 40 ans de façade. C'est qu'aujourd'hui, qui sont les plus victimes de la situation coloniale, la situation qui vient un peu discriminer, qui vient attaquer, ben c'est des jeunes Kanaks, c'est des jeunes Océaniens qui ont grandi dans les quartiers qui ont grandi dans les quartiers défavorisés de Nouméa et qui aujourd'hui veulent dire stop, stop. Donc c'est un peu, nous, on se fait aussi le porte-parole, essayer d'avoir aussi cette lecture objective de la situation sociale et économique en Calédonie. En fait, on a déconné pendant 36 ans, et ça, il faut le dire. On a laissé des gens sur le bord de la route, et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Tous les développements pour lesquels les vieux se sont battus, ça n'a pas profité à tout le monde. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on va continuer dans cette situation-là. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut aussi revoir, redimensionner pour que ça profite au maximum de personnes. Et c'est un peu la voie qu'on veut dire aujourd'hui. C'est qu'il faut que ça profite à tout le monde. Il ne faut pas que ça mette certaines des notes sur le côté. Voilà.
Merci beaucoup pour tes mots. C'était vraiment assez percutant de t'entendre. Et on aimerait, Martino, que tu rebondisses là-dessus, justement, et que tu poursuives peut-être sur le rapport, justement, à la politique de cette jeunesse qui, on le disait tout à l'heure, et que vous avez toutes les deux répété, hein, mais qui est criminalisée, perçue comme délinquante, mais qui pourtant a un rapport à la politique bien conscientisé, qui est totalement politisé et qui voilà, souhaite l'indépendance, mais plus que ça, la justice. Est-ce que, Martino, tu peux revenir là-dessus ?
Oui, mais dans les socles de ce que vient de dire Céleste, il y a effectivement une jeunesse kanak et océanienne qui était laissée, qui a un peu n'a pas pu profiter de la croissance économique du pays après l'accord de Nouméa. Et on voit qu'il y a un indicateur, notamment, qui est la population pénale. En fait, on a en Kanaky-Nouvelle-Calédonie deux fois plus de placements en détention qu'en France hexagonale, avec plus ou moins 700 détenus pour une population, comme je disais, que c'est des 270 000 habitants. Et ces taux d'incarcération intéressent surtout et presque que des Kanaks et des jeunes Kanaks, en fait. Donc, on a vraiment une énorme partie au niveau de la proportion de la population globale et de la population Kanak globale, une énorme partie de cette jeunesse qui est criminalisée, qui vit une partie de sa vie en prison ou en général dans des conditions de détention et que, en fait, tout ça, ça participe vraiment dans le sens des criminalisations constantes et d'une association qui est faite, et ça fait longtemps désormais, entre vraiment jeunesse, peuple kanak, délinquance. Et c'est vraiment un stigmate dont est vraiment difficile d'en sortir et qui influence aujourd'hui, à mon avis, aussi les analyses de ce qu'il passe. Parce que moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps des gens qui rentraient un peu dans l'alcoolisation ou l'abus de cannabis, les raisons pour lesquelles la jeunesse était sur les barrages. Et ça, c'est vraiment ne pas comprendre ce qui est en train de se passer et les liens de ces jeunes à la politique. En vrai, il y a eu et continue à avoir des taux très hauts, par exemple, de participation au référendum en 2018 et en 2020. Et il y a eu des référendums après 2021, c'est une autre histoire, mais bon, c'est pour ça rentrer dessous. Mais il y a eu un taux de participation très haut parmi la jeunesse kanak. Et donc, ça montre en vrai que la majorité de cette jeunesse de participer à la vie politique. Et une partie de cette jeunesse est bien sur les barrages. Et une partie de cette jeunesse a aussi bien vécu des expériences d'emprisonnement et tout. Mais ça n'a pas changé, en fait, les données de cette politisation. Et que c'est très dangereux encore de quelle façon essayer de... comment je peux dire, mais vraiment de sous-estimer ou de disqualifier en raison des problèmes des sociétés qui gravent sur ces jeunes. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai lu dans plusieurs articles, dans plusieurs tribunes. Donc, et c'est pour moi un grand problème. Et cet aspect vraiment de la délinquance, c'est central parce que ça fait désormais des décennies que la question de la délinquance kanak était construite comme un problème public et quelle façon portée par certains politiciens comme les signes des manques de volonté de cette jeunesse et du peuple kanak de participer à la construction du pays. Quand en fait, c'était juste une jeunesse qui était justement marginalisée du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'école, mais même de l'accès aux soins. Il y a des problèmes très hauts en termes d'accès aux soins psychiatriques, par exemple, avec un taux très haut de suicide parmi cette jeunesse. Du coup, en fait, il y a vraiment un manque de prise en charge qui ne peut pas après être renvoyé à ces mêmes jeunes comme si c'était de leur faute. Voilà. Et là, je pense que c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est intéressant comment la révolte de ces jours-là a vraiment montré, pour ceux qui ont voulu les voir, en vrai, la pleine conscientisation de ces nouvelles générations et leur envie de participer à la construction du pays.
Tout à fait. Merci. Merci Martino, merci beaucoup. Du coup, là, on va bientôt devoir conclure. Est-ce que Céleste, Mégane, est-ce que vous voulez bien, peut-être, si vous voulez conclure, peut-être, il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait bien aimé aborder, notamment la question du nickel, voilà, plein de questions, mais là, on ne va pas avoir assez de temps, ça va être un peu frustrant si vous voulez, en tout cas, dire quelque chose pour conclure.
Est-ce que vous souhaitez qu'on parle un peu du nickel ou...
Bah, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut carrément, parce que, enfin, moi, ce que je trouvais intéressant dans cette question du nickel, c'était donc déjà de dire que l'industrie du nickel, elle a commencé dès le début de la colonisation, et qu'en ce moment, il y a toute cette réflexion-là sur la transition écologique, et donc, du coup, le nickel devient encore une ressource intéressante, donc il y a une question extractiviste. Donc, on me dit dans l'oreillette que la Nouvelle-Calédonie possède 25% des ressources mondiales de nickel, donc c'est énorme. Et donc, du coup, oui, comment articuler cette question de ressources minières et en même temps la question des coloniales
c'est une question large et toutes ces questions sont intrinsèques en fait. Quand on parle de l'usine du Nord par exemple, c'est un projet pays qui était censé permettre le rééquilibrage entre les différentes provinces. Donc aujourd'hui on peut pas dire que nous soyons autonomes en termes d'économie, mais on voit bien que l'État français a tout intérêt à garder ses territoires ultramarins, notamment pour sa zone économique exclusive. On peut parler de la Polynésie française, de notre pays aussi. Et pour l'impact environnemental, en fait, on est quelque part contraint de sacrifier une part de notre capital écologique. On parlait tout à l'heure des savoirs médicinaux. Donc, on renonce à ça pour que le pays ait de quoi vivre économiquement. Mais on voit bien que ce n'est pas viable sur le long terme. Donc, quelle autre voie on pourra emprunter au-delà du nickel? Aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse à vous apporter. C'est très complexe. Même les économistes, je pense, aujourd'hui, n'ont pas forcément de réponse à nous apporter.
Ok, merci beaucoup. Et peut-être un tout dernier mot pour dire, vous, ce que vous organisez avec le collectif Solidarité Kanaki à Paris, et éventuellement inviter nos auditeurs et auditrices à rejoindre ces mobilisations.
Oui, alors en fait, on fait des manifestations, si ce n'est pas tous les week-ends, au moins une fois tous les 15 jours, durant les week-ends, on vient s'associer à la solidarité palestine, parce que on converge vers les mêmes problématiques qui restent la dominance coloniale. On se mobilise assez fortement sur les réseaux sociaux pour justement sensibiliser sur nos marches, sur nos manifestations. Et puis, on a aussi un QR code qu'on essaie de faire tourner, qu'on essaie de communiquer au travers de toutes les manifestations et de tous les points de militantisme où on pourrait y être, pour pouvoir aussi un peu refléter aussi toutes les actions que l'on mène aujourd'hui à notre humble niveau en France et notamment à Paris, pour pouvoir aussi apporter notre support à tous les jeunes et à tous nos petits frères et sœurs sur les barrages qui vivent un peu plus des situations un peu plus compliquées que nous. Donc nous, c'est notre humble apport à ce qui se passe en Calédonie. Moi, peut-être, je voudrais aussi remercier, enfin, avant tout, adresser mes sincères condoléances aux familles de tous les jeunes qui sont tombés sur les barrages, de tous ceux qui ont été victimes de la répression des coloniales et aussi de tous les... de tous ceux qui ont été victimes aussi de la milice ségrégationniste blanche des quartiers sud de Nouméa. À toute leur famille, on leur adresse nos plus humbles condoléances. Et puis, pour le sacrifice qui a été les leurs, la Kanaky leur est entièrement reconnaissante. Et pour toutes ces vies sacrifiées, nous qui sommes là debout, on veut aussi transmettre le message qu'on est déterminé pour aller jusqu'à la reconnaissance de l'indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
J'aimerais juste ajouter un dernier mot. Je pense qu'il faut réaffirmer le mot justice ce soir, parce qu'il n'y aura pas de paix sans justice pour tous nos jeunes qui sont tombés.
À balade de la mer surgissent des êtres étranges, tous de blanc vêtus, casqués, armés jusqu'aux dents, tandis que pas très loin, la croix et la bannière portées par d'autres tous de noir vêtus, garde à vous, quand le roi de Stentor qui abasourdit la population. Cette population indigène, médusée, curieuse, est déjà possédée à cet instant-là. À l'instant où le drapeau de la conquête s'élève, tremble et flotte dans le sang.